Donc je remercie la librairie Mola de nous accueillir en ce début de soirée à Bordeaux. Et je vous remercie de nous accompagner dans ce voyage au pays de la paresse. L'histoire de la paresse que publie ces jours-ci l'historien André Roche, professeur à l'Université de Strasbourg, est bien un voyage, du moins j'espère que vous le verrez avec nous. Donc un voyage du Moyen-Âge à nos jours, ça c'est pour l'histoire, mais aussi une visite de différentes œuvres picturales et littéraires. Vous verrez qu'il y a une très jolie circulation entre le texte et les œuvres qui sont reproduites dans ce livre, puisqu'il y a des tableaux de Bruegel, Dürer, Seurat, et on a fait une petite sélection d'œuvres qui sont reproduites et que vous pourrez voir au cours de notre échange. Et donc, André Roche cite aussi, bien évidemment, abondamment les textes littéraires. Et puis, à partir du 19e, 20e siècle, car il est aussi un grand historien des représentations et qui a travaillé également sur la télévision. Donc, on a des extraits de journaux et l'évocation du cinéma et d'œuvres audiovisuelles. Donc, nous vous proposerons aussi, vers la fin de ce voyage, deux archives, une archive télé et les actualités filmées, et je vous en fais la surprise. Donc ce voyage au pays de la paresse, bien évidemment, il y a le pays de Cocagne avec ses paysages amènes, où les nuages noirs des soucis d'argent sont loin, dans une nature généreuse où la concorde règne. Et comme on est aussi, bien évidemment, dans une histoire d'un péché capital, forcément, on vous présentera aussi l'enfer de la paresse. Et cet enfer de la paresse, c'est d'abord le malin qui tente les moines au Moyen-Âge, qui les détourne de la prière. Et on verra avec André Roche dans quelle mesure ce détournement du diable n'est pas déjà un début de mélancolie, où on n'arrive plus à prier, et le moine annonçant peut-être aussi le travailleur qui ne peut plus bouger, plus travailler, plus aller au boulot, et qui atteint de ce que les médecins du 19e siècle appelleront la neurasthénie. Et donc ça aussi, dans votre histoire de la paresse, André Roche, cet aspect est bien évoqué au cours du livre. On a une sorte de balancement entre les vertus et les mauvais côtés, de la paresse. Donc la paresse, péché capital, mère de tous les vices, on le verra, mais aussi avec l'avènement des libertés individuelles, du temps des loisirs, avec le droit à la paresse, le droit au repos. Une paresse qui revêt peut-être aujourd'hui en ces temps d'hyperactivité où des dirigeants de banque font des burn-out, bien des vertus avec justement le droit de se reposer et apprendre à se reposer. Alors, on va tout de suite commencer cette discussion avec André Roche, qui est aussi un éminent spécialiste de l'histoire des loisirs. Vous aviez publié une histoire des vacances. Et donc, dans cette histoire de la paresse, le temps des loisirs aussi a une belle place. Donc, on verra un peu comment tous ces éléments s'articulent les uns avec les autres. Pour commencer, la paresse, ce sont les stéréotypes, très souvent, dans les représentations. Je pense notamment à une peinture de Félix Vallotton. Il y a une très belle exposition actuellement à Paris au Grand Palais. Et on trouve d'ailleurs le catalogue d'exposition. Et donc, sur une des œuvres de Félix Vallotton qui est intitulée La paresse en 1896, on a un petit peu tous les éléments qui présentent ici peut-être plus le côté vicieux que vertueux. Vous allez peut-être nous l'expliquer, avec une belle jeune femme étendue de manière lascive sur de nombreux oreillers et qui caresse son chat. Et je crois qu'un dicton très ancien, hollandais, que vous évoquez dans le livre, nous parle des oreillers du diable. Alors, qu'est-ce que c'est que ces oreillers du diable ?
Tout d'abord, à chacune et à chacun, je souhaite la bienvenue. Je remercie moi aussi la librairie Mola de m'avoir invité, puisque, étant strasbourgeois, il n'est pas évident de présenter le livre, puisque c'est le premier jour où ce livre est en librairie, de venir jusqu'à Bordeaux, et je m'en réjouis. Puisque nous avons une iconographie, je vais essayer de la décrypter comme ça pour que vous deviniez ce qu'est la paresse. Vous noterez que cette femme s'appuie sur son coude et elle appuie sa tête sur sa main. Lorsque vous irez prochainement dans les musées ou éventuellement lorsque vous regarderez les chapiteaux d'église, dès que vous verrez cette position, sachez que c'est soit un ascédiaque, soit un mélancolique. C'est-à-dire que à un moment donné, le paresseux, l'ascédiaque, il est attaqué par un démon. Et ce démon, en général, l'attaque entre la quatrième et la huitième heure. Ça veut dire entre 10 et 14 heures. Autrement dit, on l'appelle le démon de midi. Et ce démon qui attaque le croyant, celui qui prie et qui contemple Dieu, il va dans un premier temps l'assoupir. Autrement dit, l'ascédiaque, c'est quelqu'un qui s'endort sur sa prière. Il cesse d'aimer Dieu. Donc, on peut revenir en arrière. Le personnage que vous avez là, il fait cela. Deuxième élément, j'ai bien expliqué que c'est un péché. Eh bien, ce péché, il est illustré par un animal. Il y a, si vous voulez, un bestiaire de la paresse. Et dans ce bestiaire, parmi d'autres, il y a évidemment l'escargot, nous y reviendrons, puisque comme vous le savez, l'escargot, il traîne les pieds, enfin, voilà. Il y a également les singes, puisque comme vous le savez, les singes sont tellement paresseux que quand les noix sont trop dures, ils sont capables de les jeter au lieu de les ouvrir. Et enfin, d'autres animaux encore sur lesquels je reviendrai. Mais il y a aussi le chat. Et le chat est un animal diabolique, car il réunit à la fois la luxure et en même temps l'oisiveté, c'est-à-dire la paresse, qui est l'art de ne rien faire. Alors là où Valoton renouvelle à sa façon la représentation de la paresse, c'est qu'il nous la présente entre paresse et luxure. Tout à l'heure, à l'instant, Meryl Moneghetti vous a dit qu'au Grand Palais, il y avait cette exposition Valoton. Eh bien, lorsque vous irez au Grand Palais, vous allez au Petit Palais en face et vous avez une représentation de paresse et luxure de Gustave Courbet qui date de 1866. Donc vous voyez que ce sont deux péchés qui sont proches l'un de l'autre. Et au moment où le diable attaque et que le moine s'endort, à ce moment-là, dans son oreille, il lui souffle des cochonneries, enfin des péchés. Et parmi ces péchés, il y a évidemment la lubricité et en particulier la luxure. Voilà.
Alors donc, vous montrez bien ce lien entre paresse et luxure. Et donc, la paresse est un péché capital. Alors peut-être pourriez-vous nous rappeler ce qu'est un péché capital au Moyen-Âge ? Parce que
Oui. Alors, le péché capital, c'est pas un péché plus grave que les autres. C'est pas ça son problème. Enfin, le problème. Le péché capital, c'est qu'il se comporte comme un capitaine. Caput en latin, ça veut dire tête. Donc il est à la tête. Il est à la tête de quoi ? Il est à la tête de toute une armée. Et cette armée, elle est composée d'un certain nombre d'autres péchés. Alors j'ai évoqué, il y a la torpeur, il y a aussi le fait, vous savez, les paresseux, vous leur parlez, et puis ils pensent à autre chose. Donc cette espèce de...
André, vous permettez la petite liste de Cassien, très Allez. Rapidement. Acédia, donc l'acédie, l'oisiveté, la somnolence, somnolentia, l'humeur acariâtre, l'inquiétude, le vagabondage, l'instabilité du corps et de l'esprit, je pense que vous faisiez allusion à celui-ci, le bavardage, l'indiscrétion.
Oui, alors moi je pense, oui, ça peut être celui-ci, ça peut être aussi le vagabondage de l'esprit. Autrement dit, il pense à tout sauf à ce que vous lui avez demandé. Et le paresseux, il a encore cette autre capacité qui est qu'il remet toujours à demain ce qu'il devrait faire le jour même. Autrement dit, ça s'appelle, je crois, la procrastination, mais vous n'avez pas besoin de vous retenir des choses pareilles. Sachez simplement que quand vous vous adressez à un paresseux, c'est facile à reconnaître, il va vous dire « Ah oui, bah, tout à l'heure ». Eh bien, voilà, hein, c'est la cédille, et c'est dans la cédille l'un de ces péchés qui compose la troupe qui monte à l'assaut du croyant, du moine, entre autres.
D'ailleurs, dans votre livre, vous citez les contes de Canterbury, le sermon d'un curé en particulier, qui, à propos de la procrastination, nous dit « La langueur ne sait que se tracasser, se faire du souci, remettre à plus tard, se dérober. » Et plus loin, dans ce même conte de Canterbury, « Le temps de notre vie étant très court et très précieux, il est important de n'en point laisser perdre inutilement la moindre partie. » Ce qui nous amène à l'escargot dans votre bestiaire également.
Arrivé là, il y a deux ou trois choses qui sont à noter. Lorsque vous regardez l'escargot, il a plusieurs qualités ou plusieurs défauts, si vous voulez. Tout d'abord, l'escargot avance lentement. Donc, comme tous les paresseux, il traîne des pieds, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis deux, en plus, si vous avez déjà touché des escargots, c'est un animal qui est visqueux. Or, de ce point de vue, il est deux fois diabolique, si vous voulez. Et dans sa viscosité, il a la capacité de grimper. Donc, il peut monter à un arbre, et puis tout à coup, il redescend beaucoup plus vite qu'il n'est monté. Autrement dit, ce qui caractérise la paresse, c'est que le paresseux ne se tient pas à ce qu'il a défini comme étant son objectif. Pour un rien, il perd l'équilibre, il tombe. Et puis enfin, cet escargot qui a été photographié dans une chapelle de Plélof, donc en Bretagne, et qui doit dater, je crois, du XIe siècle, mais je peux me tromper à une année près ou à un siècle près, ce sera pas très grave. Vous observerez qu'il se la joue quand même. Donc, d'une certaine manière, le paresseux, c'est quelqu'un qui, pour le moindre geste qu'il fait, il le présente comme étant quelque chose d'absolument mais faramineux, extraordinaire, etc. Donc, il est, de ce point de vue, orgueilleux. Comme vous le savez, l'orgueil est un autre péché capital. Il est presque plus capital que la paresse, en ce sens que l'orgueilleux, c'est celui qui se prend pour plus que Dieu. Vous voyez, c'est en cela que c'est un des péchés capitaux les plus importants. Mais le paresseux est celui qui, à un moment donné, renonce au combat contre le mal et qui, par conséquent, va s'assoupir. Il préfère dormir que de lutter contre l'assaut du malin.
Alors on continue notre voyage dans le bestiaire. Luther, lui, voit dans les paresseux un parasite, et notamment dans les hommes oisifs qui, selon lui, sont à l'instar des sauterelles, des chenilles et des vers qui dévorent les biens de tous les autres. Et donc tous nos moralistes vont donc condamner ce péché de paresse. Et l'un des péchés qui est lié aussi à la flemme, ça va être au niveau du savoir, enfin l'ignorance. Et donc du Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle, l'âne va être aussi le symbole de la paresse. Et votre livre donc présente bien aussi des images du célèbre bonnet d'âne, et là on l'a mis à côté de l'escargot de Pléoff pour montrer un petit peu cette continuité du Moyen Âge au 19e siècle du bestiaire. Alors, ce bonnet d'âne qui a traumatisé tant d'enfants au siècle dernier.
Lorsque vous regarderez des gravures, je pense en particulier à Callot ou à Bruegel, souvent vous voyez une femme. Alors il y aura un mot à dire tout à l'heure ou à ne pas dire sur est-ce que la paresse elle est féminine ou masculine, bien sûr. Vous voyez donc représenter une femme qui s'est assoupie et il y a un âne, soit derrière elle, soit à côté. Alors, pourquoi l'âne fait-il partie du bestiaire de la paresse? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est qu'il est têtu. Autrement dit, c'est lorsque vous vous adressez à un paresseux, vous avez l'impression qu'il s'entête face à vous. C'est-à-dire qu'il refuse de faire ce que vous lui demandez. Et puis, deux, l'âne, en plus, il refuse de s'instruire. Autrement dit, il ne veut rien apprendre. Dans un contexte où apprendre, et en particulier apprendre les évangiles, l'Ancien Testament, etc., c'est essentiel, l'âne est représentatif de cela. Alors ensuite, il va rester tout au long des siècles, et au XIXe siècle, c'est intéressant de le voir, le bonnet d'âne. Donc, premièrement, il y a une humiliation. L'enfant... l'élève paresseux, on lui demande de porter les oreilles d'âne et de faire le tour de la cour, que tout le monde le verra. Mais ici, il ne fait pas le tour de la cour, il est contre le mur, ou plus exactement, il a devant lui le personnage qui représente l'autorité, à savoir, ça peut être au XIXe siècle, soit le roi, soit l'empereur, soit éventuellement le président de la République. Donc, sa conscience est devant lui. Et d'autre part, il met les mains dans son dos. Et on lui demande de rester les mains dans le dos. Alors, pourquoi les mains dans le dos? Eh bien, les mains dans le dos parce qu'au XIXe siècle, l'une des grandes préoccupations des pédagogues, des médecins, des parents, etc., c'est le nanisme, c'est-à-dire la masturbation. Et précisément, vous avez... j'en cite quelques-uns dans le livre, mais des pelletés de traités sur l'onanisme, parce que précisément c'est le geste, l'acte qui fait perdre son énergie à la nation, entre autres choses. Et donc on lui a demandé de mettre les mains dans son dos, parce que comme ça, on est certain de savoir ce qu'il fait avec ses mains. S'il les met dans ses poches, on peut avoir des doutes. Les plus anciens parmi nous, parmi lesquels je compte, se souviennent que aux élèves, on a cousu les poches.
Alors donc, on voit encore toujours ce lien entre paresse et luxure. Je vous avais promis l'autre versant, le versant paradisiaque de la paresse. Et le pays de Cocagne a une belle place dans votre livre. C'est une tête de chapitre. On a d'ailleurs une représentation de l'ouverture du chapitre sur les fables et les utopies, avec toujours donc une reproduction, là, par exemple, d'un tableau de Bruegel, du pays de Cocagne, avec ces bienheureux, un peu assoupis, avec une petite sieste, et puis le texte de Rabelais en face, et avec peut-être cette nuance près que la paresse, elle est mesurée, c'est-à-dire où s'arrête le repos louable et où commence la mauvaise paresse. Cher André.
Donc les premiers fabliaux, on les appelle aussi des dits, ou les premières fables du pays de Cocagne, datent du XIIIe siècle. Et on va en retrouver d'autres jusqu'au XVIIIe siècle. Autrement dit, et ça traverse toute l'Europe, que ce soit l'Italie, la France, et sans doute les premiers, ou l'Allemagne, Schlauraufenland, ou The Great Pipe of Cocagne, The Great Land of Cocagne, donc l'Angleterre, ou l'Espagne, etc. Donc c'est une fable qui est qui fait partie de ce qu'on pourrait appeler la culture populaire durant ces différents siècles. Alors c'est surprenant parce que ça apparaît au XIIIe siècle, au moment précisément où se développe ce qu'on pourrait appeler, ce que parfois on a appelé, une première société de travail productif. Parce que le moine, éventuellement, il travaillait, mais son travail était une ascèse. C'est-à-dire que quand il travaillait sur lui-même pour être plus pieux et pour pouvoir faire la charité, puisque la charité est le don de soi pour les autres. Tandis qu'à partir du XIIIe siècle, et ça va se développer ensuite, nous y reviendrons, c'est un travail qui n'est pas une ascèse, qui est un travail productif, qui doit produire quelque chose. Alors, le pays de Cocagne développe exactement l'inverse. Donc, on peut s'imaginer qu'il s'agit d'une fable qui, à sa façon, va faire plaisir à tous ceux qui veulent penser à l'inverse de ce qui se passe dans leur société. Alors, comme vous le voyez, là, il représente les trois États. Donc, il doit y avoir un paysan avec il doit y avoir un paysan avec cet outil qui permet de battre le blé. Et puis l'autre doit porter sans doute une lance. Et puis le troisième, etc. Donc un bréviaire. Donc de ce point de vue, le tableau représente cela. Mais le plus important dans Cocagne, de cette époque-là jusqu'au XVIIIe siècle, c'est la gourmandise. C'est-à-dire que en Cocagne, en pays de Cocagne, on peut s'allonger et les fruits vous tombent dans la bouche. Et même si vous regardez attentivement le tableau, il est là, les oiseaux, et plus particulièrement les pigeonneaux ou les cailles, vous volent toutes cuites dans la bouche. Donc c'est cela, Cocagne. C'est une fable, c'est quelque chose qui est totalement imaginaire. Attention, Cocagne peut aussi être une utopie. Parmi nous, il y en a qui vont travailler pendant 40 ans pour pouvoir avoir une retraite, c'est-à-dire pour pouvoir ne plus travailler. Cocagne est encore présent, hein, sauf que ici, c'est une utopie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut se réaliser. Je souhaite que ça se réalise dans les meilleures conditions pour toutes les personnes qui sont ici présentes, et qui est finalement la paresse totale. C'est la grasse matinée, c'est la sieste après-midi, et puis on est sur la plage et on a la possibilité de traîner à table. Donc vous voyez que si Cocagne a été effectivement une fable, cette fable a une part de prise sur le réel.
Donc ici, on est en contrepoint de la société du travail, ou même du commandement de la Genèse, en fait. L'homme n'est pas né pour être oisif, mais pour travailler, et c'est ce qu'on va retrouver du Moyen-Âge à aujourd'hui, qui est comme un leitmotiv récurrent.
Alors, il y a plusieurs étapes. La première, on l'a mentionné tout à l'heure, à savoir que les réformateurs, je schématise, hein, les réformateurs disent que, en particulier Luther, très violent, hein, ils affirment que les moines ne servent à rien, ils labourent pas, ils défendent pas le pays non plus, ils guérissent pas les malades. Ils font même pas des discours qui permettent de cultiver l'intelligence des gens. Donc c'est des planqués qui font rien. Mais par ailleurs, le même Luther dit que la vocation de l'homme, ruf, c'est d'avoir un métier, peruf. Il joue sur le mot. Hein, et on retrouve le même jeu de mots en anglais. Hein. Donc le thème, c'est que à partir de là, le métier, et donc l'action, l'emporte sur la méditation. C'est ce mouvement de bascule. Et puis il y en a un deuxième qui est en particulier inspiré par Montaigne. Donc, je ne m'aventure pas trop parce que j'imagine que tout le monde ici le connaît. Donc dans les essais, Montaigne ne s'en prend pas aux vagabonds, à des petits paresseux. Il s'en prend aux princes qui, lui, ne se préoccupe pas de gouverner. Il se limite, son travail se limite à asservir. Et donc ce prince, il a la responsabilité d'un peuple. Et en ce sens, si lui ne travaille pas, il n'y a aucune raison que les autres travaillent pour quelqu'un qui ne fiche rien. Vous connaissez cela, vous avez été à l'école, vous ne voulez pas travailler pour le copain s'il ne veut pas travailler. Donc la thématique développée avec davantage de talent littéraire par Montaigne, en particulier dans un essai qui s'appelle « L'oisiveté », je crois que ça doit être le numéro 2, mais je peux me tromper, elle est attachée à cela. Et puis, j'en rajoute encore un dernier. Ouais, non.
Allez-y.
À partir de Colbert, on va entrer dans la perspective que c'est le travail qui enrichit la nation. Et que par conséquent, il faut faire travailler, et en particulier travailler tous ceux qui n'ont pas de travail. Donc tous ces vagabonds, tous ces mendiants, tous ces sans domicile, etc. Et vont être créés des hôpitaux généraux. Alors le mot hôpital n'a pas le sens d'aujourd'hui, hein, c'est un asile, les hôpitaux généraux, dans lesquels on va fournir à ceux qui y résident, on va leur fournir du chanvre, du lin, etc., pour leur faire des produits. Et donc l'idée de Colbert, c'est d'acheter des matières premières bon marché et de les revendre à un prix beaucoup plus élevé grâce au travail de cela. Et, alors, ce qui est intéressant chez Colbert, c'est qu'il est l'un des premiers pour la France. Pour l'Angleterre, c'était un peu antérieur. Il est l'un des premiers à considérer que c'est l'État qui doit ici prendre en charge, alors non pas la paresse, mais le travail, et donc lutter contre la paresse.
Vous avez d'ailleurs une citation emblématique en ce sens, donc de Colbert en 1667. « L'abondance procède toujours du travail et la misère de l'oisiveté ». Et donc, pour lui, le devoir du prince est de fournir du travail à son peuple. Mmh. Et sinon, il est condamnable. Et vous citiez tout à l'heure Montaigne. Donc, dans votre livre, il loue donc les hommes de pouvoir qui tiennent toujours l'âme et le corps embesogniers à choses belles, grandes et vertueuses. Donc, il y a une condamnation claire de la paresse politique. Et vous écrivez encore, on devrait rappeler souvent au roi, écrit Montaigne, pour leur faire sentir que la grande charge qu'on leur donne avec le commandement de tant d'hommes n'est pas une charge oisive. Donc pour eux, un devoir de faire le bien, quoi qu'il arrive, et de ne pas s'asseoir sur les richesses du pays.
Est-ce que vous me permettez de revenir juste sur les deux iconographies qui sont ici? Ça ne vous dérange pas?
Donc sur la sédia, décidia et oui. La condamnation des moines qui ne travaillent pas, parce qu'on est, a un moine qui est sur sa charrette avec un gros ventre.
Pour le moine, je pense que tout le monde a compris de quoi il s'agit. Hein. C'est la critique que j'évoquais tout à l'heure de Luther, à savoir qu'il s'occupe davantage de son nombril, ou plutôt il a fait de son ventre le nombril du monde. Hein. Bon. À gauche, regardez, vous voyez, il y a un chien. Alors, le chien, depuis l'Antiquité, il est considéré comme un animal de la mélancolie. Car il illustre la rate, c'est-à-dire l'organe qui, chez les anciens, produit précisément le collet. Et mélancolie, c'est la bile noire. Donc de ce point de vue, le paresseux, c'est quelqu'un qui a la bile noire. Et tout au long du livre, vous verrez qu'il y a une relation très étroite entre mélancolie et paresse. Constamment, on passe de l'un à l'autre. Et vous retrouverez de ce point de vue, au XIXe siècle, en particulier chez Baudelaire, cet équivoque. Donc sachez que le chien que nous avons vu tout à l'heure, eh bien, il est précisément pour évoquer mélancolie. Et ce moine-là, qui ne veut pas du chapelet qu'on lui tend, en fait, en même temps, il guette du regard s'il n'y aurait pas par hasard quelqu'un qui passerait et avec qui il pourrait bavarder plutôt que de prier.
On retrouve notre dispersion voilà. Décrite
Merci.
Par
excusez-moi
par Cassien.
D'avoir... C'est tellement beau ces images.
Mais en fait, comme vous avez fait le lien avec le 19e siècle, on avait rapproché la mélancolie, la sédie du moine du Moyen-Âge, d'un des grands personnages qui représente peut-être la paresse au 19e siècle et qui est Oblomov. Dans le roman d'Alexandrovitch Gontcharev, hein, au milieu du 19e siècle. Et je pense que c'est un personnage qui vous semble cher, ou en tous les cas, vous le décrivez avec une certaine tendresse. Cet homme qui cherche à se cacher de la vie, « Oh mon Dieu, nulle part où l'on puisse se cacher de la vie », dit-il.
Alors, en fait, je dois à Michel Perron d'avoir attiré mon attention sur Oblomov. Peut-être que vous avez vu son livre qui s'intitule « Histoire de chambre ». Et elle dit d'Oblomov que c'est le retrait caméral absolu. Alors, bon, le retrait, ça se retire, caméral de la chambre, absolu, c'est-à-dire que c'est même pas relatif. Alors, qu'est-ce qui arrive à Oblomov ? Oblomov, le roman date de 1859, hein, donc il est, si vous voulez, proche de Tchekhov ou Dostoïevski. Hein, et Oblomov est un aristocrate russe. Et donc, il habite Saint-Pétersbourg, et toute sa famille, depuis des siècles, est propriétaire d'un village où travaillent des serfs. Et Oblomov, il est tellement paresseux que lorsqu'il se lève le matin, eh bien, il suffit qu'il descende, il sorte les jambes de son lit, et elle s'enfonce toute seule dans ses grands chaussons larges, doux et confortables. Oblomov, il porte pas de cravate parce que c'est pas confortable. Et Oblomov, il est hanté par l'idée que aujourd'hui ne soit pas comme hier. Autrement dit, qu'il arrive quelque chose. Et le plus terrible, c'est qu'il doit déménager et il trouve un argument qui lui permet de reporter d'une semaine le déménagement. Et il dit « encore une semaine de gagner ». Donc, de ce point de vue, c'est un personnage qui illustre une crise. Car Oblomov n'est même pas capable d'aimer. Olga est follement amoureuse de lui. Et il aime bien Olga. Mais il ne va pas l'épouser. Car précisément, aimer, ça veut dire qu'on se bouge intérieurement. Et ça lui est insupportable. Donc Oblomov est significatif de deux choses. La première, c'est un Russe. Au moment où se développe en Occident la société industrielle, il est encore dans le Moyen-Âge. Donc il est dans cet entre-deux. D'autre part, il est entre l'Asie et l'Europe. Et enfin, il est entre un temps du passé et un temps du présent. Et il souffre. Donc Oblomov, c'est la paresse la plus souffrante qu'on peut imaginer, car il est une victime alors qu'il n'a rien fait à personne.
Et est-ce qu'il annonce le diagnostic de neurasthénie qui apparaît dans ces années-là, enfin, dans ce grand 19e siècle ?
Alors vous avez...
Ou est-ce que c'est un raccourci ?
C'est pas un raccourci, vous avez raison. C'est à la fois cela, et néanmoins Oblomov, enfin vous le lirez, c'est 500 pages. Si vous voulez la paresse d'André Roche, vous tombe des mains pour lire Oblomov. Hein, ça va de soi. Hein, c'est absolument passionnant comme lecture. Il est en poche en plus, donc voilà. Le problème de la neurasthénie, c'est que elle est. Si vous voulez, c'est un diagnostic médical. C'est ce qu'on appelle la maladie de Bird ou de Béard, c'est comme vous voudrez, bref. C'est la même époque, c'est vrai, c'est dans les années 1860. Et le diagnostic ressemble terriblement aux représentations que j'ai évoquées là très rapidement de la paresse, de la sédia. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est terriblement pessimiste, c'est quelqu'un qui a du mal à se tenir debout, Le neurasthénique, d'après Bird, mais aussi d'après Bernheim, etc., et Freud, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il est obligé de faire un effort colossal pour rester debout, c'est-à-dire pour rester en vie. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui n'a aucune motivation. Il n'est pas capable d'aimer ni quelqu'un, ni quelque chose. Alors, bon, j'insiste pas sur le tableau. Donc, vous avez raison de dire que c'est proche d'Oblomov, mais sachons que Oblomov, il a un sens historique de civilisation, alors que les neuropsychiatres ou les neurologues ou les psychiatres n'ont que faire de cette histoire.
Après Oblomov, vous évoquez un autre personnage littéraire qui, là aussi, a votre tendresse et qui me semble aller plus loin dans le refus. Il s'agit du héros américain quasiment contemporain Bartleby, d'Herman Melville, et qui est celui qui refuse les tâches qu'on lui donne au travail, qui dit « I would prefer not », « j'aimerais mieux pas ».
Alors, Bartleby date... j'avais dit Oblomov 1859, Bartleby 1856. Mais l'un est russe et l'autre à l'autre bout de la planète. Donc, ça n'a, y a pas de relation. Alors, qui est le personnage de Bartleby? Le personnage de Bartleby, c'est un copiste qui travaille chez un homme de loi, donc un avocat ou un juge ou quelque chose comme ça. Et il est arrivé à ce poste parce que c'est un homme extrêmement consciencieux. Il est là très tôt le matin, il reste très tard le soir, jusqu'au jour où tout à coup, il refuse de travailler, ensuite il refuse de manger, et puis à la fin, il refuse de vivre. Donc, son patron, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas lui qui souffre le plus, c'est le patron. Parce que le patron, il ne sait pas comment faire, il ne peut pas le mettre à la porte, ça ne se fait pas, il ne peut pas appeler la police, enfin, c'est pas correct. Et donc, il intériorise la souffrance de ce paresseux. Et à ce moment-là, il découvre qu'auparavant, Bartleby avait travaillé à la poste, et qu'à la poste, eh bien, il était chargé des lettres qui n'avaient pas été distribuées, donc du rebut. Et il se demande si Bartleby n'est pas tout simplement le rebut d'une société capitaliste qui exploite et qui jette. Donc, de ce point de vue, Bartleby n'est pas seulement une victime, il est un martyr de la paresse. C'est-à-dire celui qui alerte, celui qui, d'une certaine manière, porte à la lumière le problème de cette exploitation de l'homme avec le développement du capitalisme.
Et donc vous mettez bien en lumière par exemple des textes de Nietzsche quand il notamment dans Aurore, dans ses réflexions sur les préjugés moraux, quand il s'interroge sur cette civilisation qui nuit aux individus, quand il part un petit peu en guerre contre les forcenés du travail, et notamment aussi lorsqu'il décrit les Américains, et je cite encore je reprends la citation que vous donnez dans votre livre, toujours de Nietzsche, donc parlant des Américains, quand ils déjeunent, ils ont leur œil sur le courrier de la bourse, avec cette société qui ne s'arrête jamais. Et donc on en arrive à cette grande question, qu'est-ce qu'on fait de son temps, qu'est-ce qu'on fait de sa liberté? Là encore, j'ai fait un petit rapprochement parce qu'il y a beaucoup de choses qui dialoguent dans votre livre. J'ai repris une citation de La Bruyère. Alors vous allez me dire, ciel, que vient faire La Bruyère au milieu du 19e siècle? C'est un abus. Mais il m'a paru intéressant de reprendre parce que La Bruyère est un universel comme Montaigne, comme de nombreux auteurs qui sont chers à notre cœur. Et il dit ceci, donc dans « La liberté n'est pas oisiveté, c'est un usage libre du temps. C'est le choix du travail et de l'exercice. Être libre, en un mot, n'est pas ne rien faire. C'est être seul arbitre de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait point. Quel bien en ce sens que la liberté ?»
Alors, ça c'est un... c'est une face très, très constructrice, très constructive de la paresse. Elle apparaît chez La Bruyère. Elle commence avec le fait que le paresseux, c'est quelqu'un qui dit non. Autrement dit, c'est le degré zéro ou le degré numéro un de la liberté. Et chez Nietzsche, que vous citiez il y a un instant, Mérine Moneghetti, dans Aurore, qui Morgenröte, donc ça date de 1881 à peu près, il y a tout un passage, indépendamment de ceux qui ont été cités à un instant, où Nietzsche insiste sur le fait que le travail tient chacun en bride. Autrement dit, c'est le travail qui nous bride, et de ce point de vue, c'est ne pas travailler. Donc la liberté, elle est liée à ce refus. La thématique de Nietzsche, elle est aussi extrêmement intéressante parce qu'elle s'oppose à notre assédiac de tout à l'heure, hein, qui s'enfonçait là dans son siège et qui, d'une certaine manière, était pris de pesanteur. Hein. Il pèse lourd, d'ailleurs. Vous le savez, le paresseux a toujours des souliers de plomb. Hein. Il avance vraiment péniblement. Or, Nietzsche, lui, il dit que son paresseux à lui, eh bien, c'est l'homme qui sait danser, qui a des ailes, qui est léger, par opposition à celui qui est bridé par le travail et qui donc ne peut pas se libérer, ne peut pas aller danser.
Alors en fait, au milieu du 19e siècle, il y a le droit au travail, enfin, comme qu'on va retrouver chez Louis Blanc. Et à la fin du 19e siècle, il y a le célèbre droit à la paresse, donc qui va s'avérer une sorte de porte ouverte sur le temps des loisirs. Est-ce que vous le diriez comme ça? Est-ce que on peut l'articuler de cette manière, ou est-ce là encore un raccourci?
Alors, je pense que c'est la toile de Seurat qui est la plus parlante, si j'ose dire. Donc, vous voyez, j'attire votre regard sur trois choses. La première, c'est que sur le bord de Marne à Asnières, c'est ça?
Oui, une baignade à Asnières, ouais. 1884.
Donc, ça date de 1884. Donc, il y a un personnage qui est assis, il y en a un qui est allongé, le troisième a les pieds dans l'eau, le quatrième est dans l'eau, et il y a cette personne qui n'est peut-être pas un homme, n'est peut-être pas une femme, qui nous tourne le dos. Hein. Donc on a toutes les positions, en quelque sorte, non pas de la paresse, mais du loisir. Et vous observez que ces gens sont totalement immobiles. Autrement dit, c'est un peu comme si le loisir était une grande cérémonie à laquelle on assiste, à laquelle on participe, et qui fait que par respect, on ne va pas gesticuler. Mais enfin, et c'est le dernier point sur lequel je voudrais attirer votre attention, il y a une terrible tension dans le tableau. Parce que si, en premier plan, les personnages sont effectivement de loisirs, au fond, vous voyez la cheminée de l'usine et la fumée qui se dégage. Autrement dit, ce temps-là, il a peut-être été arraché à l'autre temps, celui du travail. Ou peut-être qu'ils sont complémentaires. Je ne sais pas.
En fait, il y a toujours un regard un petit peu ambivalent sur la paresse. Là, j'ai voulu rapprocher deux représentations de la paresse. L'une qui est le célèbre mendiant de Murillo en 1648. Et puis, dans votre ouvrage, on trouve également une du Petit Journal, donc un quotidien, un grand tirage populaire, donc de 1907. Et on a deux représentations de la jeunesse oisive. Et ce regard sur le pauvre, alors dans une société qui travaille, qui a beaucoup de mal à voir la jeunesse inactive, et où, du coup, il y a une criminalisation du pauvre, et criminalisation au XIXe siècle du jeune oisif. Et donc finalement, c'est quelque chose qu'on va retrouver comme ça sur plusieurs siècles. Oui. Ou est-ce là encore un raccourci ?
Non, ce ne sont pas des raccourcis, loin de là. Donc on va s'arrêter au petit journal, si vous permettez. La jeunesse ne représente pas seulement des individus. La jeunesse représente la société de demain. Autrement dit, si cette jeunesse n'est pas éduquée, si elle n'est pas formée, si elle ne sait pas travailler, la société industrielle va à son déclin. Hein. C'est comme ça qu'il faut... Disons, c'est le premier avertissement. Alors, qu'est-ce que font ces trois ados, ces trois jeunes? Vous observerez qu'eux aussi ont épousé, ont adopté la position de la Cédiac. Hein. Il y en a deux qui s'appuient sur leur coude et appuient leur tête. Là, ils ont la tête lourde, hein, c'est évident, sur leur main. Le troisième, c'est l'âne de tout à l'heure, c'est l'aveuglement. Vous voyez, il ferme, on voit pas ses yeux. Alors ça, c'est la réalité. Et cette réalité, elle porte en germe, d'une certaine manière, elle va féconder le fantasme, à savoir ces deux voyous qui, au coin d'une rue, guettent un passant. Le passant porte un chapeau haut de forme et a un manteau sur le bras. On peut supposer qu'il a aussi un portefeuille dans l'une de ses poches. Donc le réel, à savoir des jeunes paresseux, génère dans l'esprit de celui qui regarde le petit journal ce fantasme, à savoir demain il n'y aura plus que des voyous et des bandits dans nos rues. Le fantasme n'a pas totalement disparu.
Oui, peut-être que vous pensez à ces jeunes qui zonent en bas d'immeubles et sur lesquels on a souvent pas mal de fantasmes. J'aimerais vous soumettre une autre représentation de la jeunesse qui montre encore peut-être cette ambivalence des représentations de la paresse. Et celle-ci me semble assez bien montrer à la fois peut-être le côté évice et vertu de la paresse. Alors, les grands exégètes nous diront peut-être que cette image est plus du côté du vice, mais il me semble qu'il y a des éléments qui peuvent nous permettre de penser que cet étudiant qui délaisse son étude a peut-être une rêverie créative. Qu'en pensez-vous, André Roche? Est-ce que c'est possible dans ce tableau de 1630 de Peter Jacob Schoed? Je prononce très mal.
J'ai un tout petit peu de mal à l'imaginer, mais... On va faire un effort. J'attire votre attention sur toute la peinture flamande du XVIIe siècle. Les contemporains de Teniers, par exemple, Teniers, je ne sais pas comment vous prononcez, et qui représentent des scènes de caveaux avec des hommes qui sont en train de boire, qui jouent, qui fument, qui jouent aux cartes, qui se tapent dessus quand ils sont ivres, etc. Donc toute cette école... Essayez, mais je suis sûr que vous l'avez déjà fait jusqu'ici, essayez de la regarder à la lumière de ce que nous venons d'évoquer à propos de la paresse. En fait, ce sont des paresseux et la paresse entraîne l'ébriété, etc. Hein? Alors ici, on a un cas un peu singulier, en ce sens que effectivement, ce jeune a abandonné la lecture de son gros livre qui est sur sa gauche. Donc encore une fois, il appuie sur son coude, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est la pipe qu'il a cachée derrière sa cuisse, car précisément dans la fumée, il n'y a pas que la fumée de l'enfer qui joue, il y a aussi le fait que dans la fumée l'esprit s'embrume un peu comme le moine qui s'endort. Donc on a cette idée, et vous verrez dans les tableaux de Teniers qui représentent ce type de scène, on voit, j'en ai mis un dans le livre, on voit en particulier trois hommes qui tirent sur leur pipe tout ce qu'ils peuvent de fumée pour la recracher. Hein. Oui, on avait la suivante, peut-être que celle-ci est aussi très très intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que c'est un démon. C'est un démon qui crache le feu.
On a un fumeur avec encore sa pipe, un tableau de Van Cresbeck,
ouais, c'est ça.
Du XVIIe siècle, les yeux exorbités, la bouche grande ouverte, et les cheveux un peu tels une sorte de méduse masculine.
Oui, ça peut être aussi une méduse, oui, ou un démon. Il porte à la main une fiole, donc non seulement il fume, mais il boit. Et le tableau est plus important, là, c'est un fragment. Il a cette espèce de regard provocateur de la vanité qui l'habite, car effectivement, il montre à tout le monde son vice. Hein, il l'expose avec les yeux globuleux et très, très brillants, qui peuvent être, d'une certaine manière, Lucifer, c'est celui qui porte la lumière. Donc, on a quelque chose de cet ordre-là.
Donc, la paresse mère des addictions, à ce moment-là, on l'a bien compris. Mais moi, si je reviens à mon étudiant avec sa rêverie, j'ai envie peut-être de la rapprocher, là, cette fois-ci, d'une citation littéraire, pas d'une autre image, que vous donnez dans votre livre. Et c'est Raymond Radiguet qui dit « Si la jeunesse est niaise, c'est faute d'avoir été paresseuse ». Alors, comment on explique ici cette vertu de la paresse chez Radiguet ?
Alors, je crois que c'est important de terminer sur... mon livre a aussi pour objectif de la réhabiliter, parce que tout le monde en dit du mal. Hein, c'est un vice, c'est un péché, etc. La pauvre... Il y a aussi peut-être des paresses. D'abord, il y a des paresses heureuses. Hein. J'en ai mentionné une tout à l'heure. La sieste est une paresse heureuse aussi. Elle vous prend. C'est la santé de la vie qui la traverse. Et là, chez Radiguet, donc c'est, tout le monde a lu le roman de Radiguet de 1923, Le diable au corps. Il dit « Si la jeunesse est niaise, c'est faute d'avoir été paresseux. » Pourquoi ? Eh bien parce que, comme beaucoup d'autres poètes, comme un certain nombre d'autres poètes, il pense que l'esprit a besoin de mûrir. Il a besoin de temps pour mûrir. Et donc, c'est quand on ne fait rien qu'on fait l'essentiel. C'est un thème qui est proche de celui de Vigny, qui dit que le poète ne peut faire de poésie que si... il n'a rien d'autre à faire. C'est un thème qu'on trouve aussi chez Baudelaire. Mais chez Raymond Radiguet, il prend une autre dimension parce qu'il nous donne un précepte éducatif pour la jeunesse. La jeunesse à laquelle on confie constamment des devoirs à faire, ouais, des devoirs à la maison, des cycles d'études de plus en plus chargés, etc. Et lui pense que cette jeunesse-là va être, entre guillemets, niaise, c'est-à-dire qu'elle sera naïve, elle va croire n'importe quoi. Si elle avait le temps de paresser et donc de mûrir, il n'en serait pas ainsi.
Et peut-être aussi de créer, puisque la paresse peut être créative. Et souvent, les auteurs, je pense à Julien Gracq, qui lui défend une paresse productive, c'est-à-dire une paresse qui peut l'aider à créer, en fait. Je voulais vous faire commenter deux petites dernières archives. Donc, parce qu'on a évoqué bien évidemment la place des loisirs et des conquêtes, parce que finalement le droit à la paresse a été aussi une conquête. Et il me semble que cette archive résume bien ce propos.
1906, c'était, dit-on, la belle époque, le beau temps des rentiers qui vivaient de leur rente, le temps où la vie était facile. Facile! Cette année-là, conclusion de nombreux efforts, le ministère du Travail voyait le jour. Il était devenu nécessaire, et ses 50 ans d'existence le marquent bien. Ce fut sa première réussite de donner au monde du travail le repos hebdomadaire obtenu à la suite des grèves de 1906, puis la semaine anglaise. Ces conquêtes n'étaient qu'un point de départ, car ce fut en 1919 une nouvelle réussite de faire entrer dans les faits la loi de 8 heures votée en 1913 et sur laquelle étaient axés les mouvements populaires. Et ce fut 1936, où le mouvement social prit une acuité jamais atteinte avec les occupations d'usines et le gouvernement de Léon Blum. De cette année datent les conventions collectives où délégués patronaux et ouvriers signèrent sous l'égide du gouvernement ce qui porte encore aujourd'hui le nom d'accord Matignon. De là datent avec les conventions collectives les congés payés, l'arbitrage obligatoire. De là date également la loi sur les 40 heures. Depuis, avec la garantie du salaire minimum, l'extension de la sécurité sociale et la création des comités d'entreprise sont nées de nouvelles mesures. Allongement des congés payés, sécurité de l'emploi. Peut-on oublier que cette évolution est due pour une grande part à ce demi-siècle d'action du ministère créé en 1906 et que si l'œuvre n'est pas finie, on peut en tout cas dire qu'elle est déjà bien commencée.
Voilà.
Alors, c'est une archive donc de 1956 à la gloire du ministère du Travail, mais il me semble qu'elle résume combien ce temps de loisirs, de repos autorisé, a été une conquête. D'ailleurs, dans votre livre, on retrouve les affiches des 8 heures qui sont dans cette archive. Et c'est là aussi peut-être l'actualité de la question de la paresse aujourd'hui, là où on s'interroge, peut-on travailler le dimanche, doit-on travailler le dimanche, les 35 heures, qu'est-ce qu'elle coûte, enfin, sans entrer dans les polémiques, parce que finalement, la paresse, c'est ce que vous montrez bien dans votre livre, a été aussi une sorte de guerre intestine du Moyen-Âge à aujourd'hui, entre ceux qui défendaient le droit au repos, à l'usage de sa liberté, enfin pour d'user de son temps comme on l'entend, et puis ceux qui disent que ce temps doit être tout le temps productif.
Mm-hmm. Non, puisque nous allons vers la conclusion, je pense que la question de la paresse pose la question de à qui appartient le temps. S'il appartient à Dieu, on l'a vu tout au début. S'il appartient au maître, on en a aussi parlé. S'il appartient au patron, il ne me reste pas de liberté. Donc, de ce point de vue, là, je pense que l'un des fils directeurs d'une réflexion sur la paresse, c'est aussi la question de savoir à qui appartient le temps. Et le loisir, c'est le moment où nous pensons, où nous voulons nous réapproprier notre temps à nous en tant qu'individu, en tant que personne. Merci.
Merci André Roche. Donc on est au terme de ce voyage au pays de la paresse. Voilà, je vais vous laisser André Roche à disposition si vous voulez vous rapprocher du bureau, s'il l'accepte. Et puis une petite annonce pour terminer. Il sera à l'antenne de France Culture ce samedi sur l'émission de Jean-Noël Jeannonnet, Concordance des temps. Voilà,
et 10h,
11h. À 10h, voilà. Et puis pour les Bordelais, on a aussi les tribunes de la presse, pour ceux qui le souhaitent, au TNBA et à l'école de journalisme, où là, il sera question de censure et journalisme, avec des grands journalistes du monde entier.